Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 5, proposé par le Mouvement des entreprises de France et réalisé à partir d'une session de sensibilisation. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'académiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous. Donc merci Céline, merci à vous participants aujourd'hui à ce webinaire sur la PCRH. Juste un rapide mot d'introduction pour vous dire pourquoi on organise ce webinaire. Le pôle social et particulièrement la direction éducation-formation, on a notamment comme objectif de faciliter le fait que lorsqu'une entreprise a un besoin en compétences, elle puisse le trouver facilement sur le marché du travail ou via la formation de ses propres salariés. Et on sait que pour atteindre cet objectif, mieux on définira le besoin en compétences initiales et mieux on arrivera à y répondre par la suite. Et donc, ce travail d'anticipation puis de ciblage des besoins en compétences est essentiel et déterminant. On constate que même s'il existe un certain nombre d'outils comme le plan de développement des compétences, comme les GEPP, il y a trop peu d'entreprises et notamment trop peu de petites entreprises, particulièrement les très petites entreprises, qui vont dessus, qui les utilisent. Faute de temps, de moyens la plupart du temps, mais aussi parce qu'il y a toujours ou souvent plus urgent à traiter que ce travail d'anticipation. Et il y a donc un vrai et réel enjeu à accompagner les TPE-PME sur ces sujets RH. Et c'est précisément ce que propose la PCRH. Sans rentrer dans le détail, parce que c'est justement tout l'objet de ce webinaire, la PCRH nous semble particulièrement adaptée pour une raison, c'est parce qu'elle n'a pas vocation à faire à la place de l'entreprise. Elle a vocation à accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de leur politique RH, et une politique RH plus ambitieuse. C'est pas juste une réponse à un moment T, à un besoin précis, mais c'est bien une consolidation pérenne des pratiques de l'entreprise sur la durée, et ça nous semble à ce point très très important. C'est pourquoi on voulait vous faire découvrir ou redécouvrir la PCRH aujourd'hui, savoir comment elle fonctionne pour que vous aussi, vous puissiez soit en bénéficier, soit la faire connaître autour de vous à l'avenir. On vous propose trois interventions et merci à nos trois intervenantes. Juliette Roy, chargée de mission à la MADEC, donc la mission anticipation et développement de l'emploi et des compétences au sein de la DGFP. Christine Aubertin, chargée de mission mutation économique et développement des compétences au sein de la DREDS Pays de la Loire. Et enfin, Anaëlle Casimir, responsable emploi formation au MEDEF La Réunion. Et donc, Juliette, une première question assez simple, mais quand même assez centrale finalement. Qu'est-ce que la PCRH ?
Bonjour et bonjour à tous. Pour répondre à cette première question, la PCRH, en fait, c'est un dispositif qui propose aux TPE-PME une prestation de conseil donc sur les ressources humaines, financée tout ou partie par des fonds publics. C'est un accompagnement qui est réalisé par un consultant qui est extérieur et qui est spécialisé. Et vraiment, l'objectif de cette PCRH, c'est de co-construire des outils et un plan d'action qui soit opérationnel, partagé par les acteurs de l'entreprise sur des thématiques qui lui sont propres, et d'accompagner la mise en œuvre de ces actions en rendant l'entreprise autonome et en lui permettant l'appropriation de ces outils. On insiste bien là-dessus parce que la PCRH, en fait, elle n'a pas vocation à faire à la place d'eux, elle n'a pas vocation à externaliser la fonction RH, mais bien à faire monter en compétence l'entreprise sur ces questions-là.
Elle s'adresse du coup à quelles entreprises, les TPE-PME, est-ce qu'il y a des conditions d'éligibilité au dispositif? Depuis quand est-ce que ça a été créé et développé? Comment s'est porté un petit peu au niveau du national?
Alors depuis quand est-ce que le dispositif existe? Il a eu plusieurs formes, mais en fait on remonte à 2016 sur une première création, voilà, en appui aux entreprises, qui a été ensuite un peu modifié à l'aune de la crise sanitaire en juin 2020, pour renforcer du coup cet accompagnement, et qui ensuite a pris une forme plus pérenne depuis septembre 2022, grâce à une nouvelle instruction qui est encore en cours aujourd'hui. Les entreprises ciblées, ce sont les entreprises de moins de 250 salariés. Vous voyez là les critères un peu plus précis s'afficher. Ce n'est pas accessible aux auto-entrepreneurs, ni aux entreprises sans salariés, sauf si ça concerne un projet de recrutement, ni aux EPIC, SEM, sociétés publiques, GIP, etc. Vous pouvez retrouver tous ces éléments dans l'instruction, mais ce qu'il est important de retenir, c'est que notre cible, c'est vraiment les TPE-PME, et vous le verrez dans les statistiques, on pourra un peu vous montrer tout à l'heure, particulièrement les moins de 50, les entreprises de moins de 50 salariés, puisqu'il s'agit encore une fois de professionnaliser la fonction RH et donc de pouvoir faire monter en compétence les plus petites entreprises.
Cet accompagnement RH, si on va un peu plus dans le détail, comment il fonctionne, quelle durée, par qui il est conduit?
Alors, comme j'ai pu le mentionner, hein, il est conduit en fait par un consultant qui est spécialisé et extérieur à l'État, à l'organisme relais, etc. Il dure entre 1 et 30 jours qui peuvent se dérouler sur 12 mois. On est en fait sur une moyenne, on l'observera tout à l'heure, de une moyenne de 6 jours d'accompagnement. Comment ça se déroule concrètement? Eh bien, vous le verrez aussi grâce à ma collègue. En fait, les DRETS, donc les directions régionales, conventionnent soit directement avec l'entreprise, soit avec un organisme relais qui, la plupart du temps, est l'OPCO, mais peut être un autre organisme relais, et donc conventionne auprès d'eux pour mettre en place ces prestations. Ensuite, le consultant, eh bien, soit il est choisi par l'entreprise, si elle a déjà une idée préconçue, voilà, de qui elle veut, par qui elle veut être accompagnée, soit elle peut être proposée par l'OPCO ou la DRETS, sachant que ce consultant, il doit respecter quand même un critère d'ancienneté de 2 ans sur ces questions-là et répondre, voilà, à un certain nombre d'attentes de qualité qu'on pourra revoir. L'important aussi, c'est vraiment que c'est une démarche qui se veut, vous le voyez, participative. Donc ça implique, voilà, c'est pas simplement auprès du dirigeant, mais l'idée, c'est vraiment d'impliquer toute l'entreprise, les salariés, les représentants du personnel, etc. Cette prestation, elle peut aussi se dérouler donc la plupart du temps de façon individuelle, mais on peut aussi proposer des PCRH collectives si plusieurs entreprises ont une même problématique, font partie d'un même bassin d'emploi. Ça peut être aussi l'occasion de se regrouper et d'échanger avec ses pairs.
Ok, donc très petites entreprises ou PME sur une durée relativement courte par un cabinet extérieur. Vous avez ciblé un certain nombre de thématiques RH, c'est-à-dire qu'on peut mobiliser ce dispositif, mais pas sur tout et n'importe quoi. Il y a un certain nombre de thématiques qui existent pour lesquelles justement on peut solliciter cet accompagnement extérieur. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, s'il vous plaît?
On est sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, bien sûr, l'appui au recrutement et au développement de l'attractivité. Quand on dit appui au recrutement, je reviens un peu sur ce que j'ai déjà dit, hein, mais ce n'est pas recruter pour. C'est vraiment accompagner l'entreprise pour, pourquoi pas, savoir mieux rédiger une fiche de poste, etc. On est plus dans cet accompagnement-là. L'intégration des salariés dans l'entreprise, l'organisation du travail, l'amélioration du dialogue social, la professionnalisation de la fonction RH, l'accompagnement en lien avec les transitions numériques et écologiques, qui sont deux priorités de politique publique du moment, et puis l'accompagnement à des situations conjoncturelles, voilà, comme vous pouvez le voir, des changements dans l'entreprise qui nécessiteraient de revoir un petit peu l'organisation.
Donc sur chacune des thématiques, à chaque fois, vous avez effectivement des cabinets extérieurs qui sont spécialisés dans ces thématiques-là et pour lesquelles les entreprises peuvent faire la demande d'un accompagnement. C'est bien ça?
En fait, sur un accompagnement, une entreprise peut vouloir être, enfin, peut cibler plusieurs thématiques qui la concernent. Après, le choix du consultant, voilà, on essaye forcément, surtout quand il est proposé par l'OPCO ou par la DRETS, d'aller vers un consultant qui sera le plus à même, le plus proche des besoins de l'entreprise. Et donc, qui sera en capacité de réaliser la prestation la plus qualitative possible au regard des problématiques qui seront énoncées. Mais on peut effectivement avoir un accompagnement qui touche plusieurs de ces thématiques.
Une entreprise, vous le disiez, ça doit s'adresser en premier lieu à sa DRETS, donc c'est au niveau local que ça va se passer. C'est la porte d'entrée à chaque fois de cet accompagnement PCRH. Christine Aubertin, je me tourne vers vous du coup au niveau de la DRETS Pays de la Loire. Vous portez effectivement ce dispositif sur votre territoire au sein de la DRETS. Est-ce que vous pouvez juste nous décrire un petit peu les spécificités du déploiement de la PCRH dans votre région, en quoi ça se démarque aussi de ce qui vient d'être décrit au niveau national, et voilà, nous dire en quelques mots en quoi ça consiste.
Alors, ça se démarque tout en restant dans le cadre de l'instruction, bien entendu. En région Pays de la Loire, en fait, nous avons plusieurs particularités. La première, c'est que dès le démarrage de la mise en place de la PCRH, nous avons eu un cofinancement du conseil régional qui était mobilisable sur toutes les entreprises cibles, c'est-à-dire de 1 à 249 salariés. Et depuis que les taux d'intervention de l'État ont été réduits, ça a grandement facilité le maintien et la dynamique du dispositif, puisqu'en fait, il y a très peu de reste à charge pour les entreprises, voire pas du tout pour certaines. Par conséquent, c'est un dispositif qui fonctionne toujours très bien en Pays de la Loire. Première particularité. Deuxième particularité qui n'en est pas réellement une, puisqu'il y a d'autres régions où ça se passe comme ça, la DREETS a contractualisé avec les 11 OPCO. Donc, tous les secteurs d'activité, toutes les TPE-PME sont représentés et ont accès par le biais de leur OPCO à la PCRH. Et nous ne faisons pas de conventionnement direct entre la DREETS et les entreprises, considérant que le service rendu par les OPCO en matière d'accompagnement, de conseil, d'appel à concurrence sur les consultants qui sont en capacité d'intervenir pour accompagner leurs adhérents sont avérés. Par conséquent, les OPCO prennent le relais. Donc, on a des conventions cadres avec tous les OPCO et nous travaillons de concert sur la gestion en fait du vivier de consultants. Donc là, c'est une particularité aussi en Pays de la Loire. Pour ceux qui ont pu connaître l'ancêtre de la PCRH, c'était l'accompagnement TPE-PME qui existait, comme Juliette l'a rappelé, depuis 2016. À l'époque, en fait, et y compris jusqu'en janvier, jusqu'en 2022, les consultants qui étaient amenés à intervenir sur les prestations de conseil en ressources humaines étaient ce que l'on appelait référencés. Ils passaient par les fourches caudines d'une instruction sur la base d'un certain nombre de critères qui étaient dictés par l'instruction en vigueur à l'époque. Et il y avait qu'un certain nombre de consultants qui pouvaient intervenir. Depuis le texte de 2022, cette notion de référencement a été abolie. Il n'en demeure pas moins qu'en Pays de la Loire, on a maintenu ce que l'on appelle un répertoire des consultants PCRH. C'est-à-dire que sur la base d'un accord et d'une négociation entre les OPCO et la DREETS, nous avons convenu que nous allions alimenter en amont un vivier de consultants à même de répondre aux différents types d'accompagnement qui sont proposés dans le cadre de la prestation. Donc, le repérage de ces consultants se fait sur la base d'un appel à projet, on va dire permanent, en fait, qui est en ligne sur le site de la DREETS. Un consultant qui estime être en capacité et avoir les moyens d'intervenir et d'accompagner les entreprises va faire acte de candidature auprès de nos services. Et nous allons mener conjointement avec l'ARAC, puisque, restons humbles, l'adresse n'est pas multicompétente. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas la prétention de l'être. Donc, je m'adjoins les services de l'ARAC, qui est spécialisé en matière de consulting, qui travaille au quotidien avec des cabinets de consultants. Nous travaillons sur l'instruction des demandes qui nous arrivent. Et nous arrêtons un certain nombre de profils, en fait, qui vont être mobilisables immédiatement par les OPCO pour intervenir dans l'accompagnement de leurs adhérents. Et puis, depuis que les OPCO, en fait, cofinancent la prestation, puisque depuis juin 2023, Juliette, tu m'interromps si je me trompe, mais il me semble que c'est juin 2023, les OPCO, potentiellement cofinancent, la prestation. Certains le faisaient déjà auparavant. Et à ce titre-là, un certain nombre d'entre eux a fait le choix de lancer des marchés publics pour repérer un certain nombre de consultants. Donc, du coup, en Pays de la Loire, on est sur une équation. Les consultants qui sont inscrits au répertoire sont issus des marchés publics et en même temps ont souscrit à l'instruction, aux fourches codines de l'instruction de la DREETS et de l'ARAC.
Mais si jamais on a là des cabinets extérieurs qui sont intéressés aussi par ça, c'est auprès de vous ou en réponse aux appels à projets des OPCO qui sont sélectionnés
Voilà.
suite à une instruction faite par l'ARAC et par vous. Ces cabinets doivent se positionner sur des thématiques précises en disant, voilà, il y a 9 thématiques, nous on est en mesure d'en répondre à 4 ou 5 et
Alors,
ensuite il y a l'instruction qui est faite.
le cabinet de consultants qui va postuler pour accompagner dans le cadre de la prestation va faire état d'un certain nombre de compétences que l'on va essayer de confirmer à travers une instruction. On leur demande tout simplement de partir d'un cas d'accompagnement qu'ils ont mené, bien évidemment, sur tout autre type de prestation. Donc, on leur demande de poser la problématique et puis comment ils ont répondu, quelle pédagogie ils ont mis en œuvre pour y répondre, quelle méthode de consulting, etc. Et sur la base de cette expérience, de ce retour d'expérience, on va valider un certain nombre de compétences. Donc, en fait, le répertoire des Pays de la Loire, alors, il est accessible sur le site, hein, il est ouvert à tous. Donc, une entreprise qui souhaite, en amont de son contact avec l'OPCO, repérer un consultant peut le faire. Et ce répertoire, il va avoir trois entrées différentes. Une entrée territoire par département, une entrée par type d'activité de l'entreprise. Certains cabinets vont se positionner plus sur du BTP ou de la santé plutôt que sur tous les secteurs d'activité. Et puis, dernière entrée, les types d'accompagnement qu'ils sont capables de mettre en œuvre.
Ça veut dire que sur un territoire donné, vous avez un pool de cabinets qui est potentiellement spécialisé dans un secteur d'activité, situé géographiquement, avec un degré d'expertise qui a été contrôlé et donc normalement un gage qualité assuré. Donc ça veut dire que en termes d'offre de service pour l'entreprise, c'est assez complet parce qu'il y a différentes entrées qui peuvent répondre à leurs besoins.
Voilà, ça avait été un petit peu imaginé comme ça au départ, pouvoir, parce que dans le laps de temps qui a prévalu à la mise en place des conventions cadres avec les OPCO pour déployer la prestation conseil en ressources humaines, les demandes arrivaient à la DREETS. Donc l'idée, c'était aussi que l'entreprise soit en capacité, à travers un pool de consultants, de pouvoir choisir celui qui était soit proche de son territoire, soit dont les capacités d'accompagnement semblent être les plus proches de ses attentes. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de pouvoir laisser le choix à l'entreprise par rapport à la mobilisation des consultants. Il s'avère que le fait d'avoir conventionné avec les OPCO, bien évidemment, ces derniers déploient une offre de conseil, hein, et sont en capacité de mesurer, échanger avec l'entreprise pour bien cerner le besoin de cette dernière, de façon après à faire un appel à candidature et proposer deux, trois cabinets de consultants à l'entreprise avec des propositions écrites en matière d'accompagnement par rapport à la problématique et les attentes qu'elles ont. Et puis après, c'est l'entreprise qui va choisir parmi ses cabinets, si elle le souhaite, celui qui semble le plus proche de ses attentes. Dans la majorité des cas, il s'avère que le travail est plutôt fait par l'OPCO, que l'entreprise, en fait, s'appuie sur l'expertise de ce dernier pour lui laisser le choix, en fait, du cabinet et de celui qui sera le plus à même de répondre à ses attentes.
Donc juste pour être bien sûr sur le parcours utilisateur, une entreprise en Pays de la Loire, elle va d'abord contacter son OPCO.
Voilà.
Elle contacte son
L'entrée unique, l'OPCO,
OPCO.
pour faire le plus simple. Alors, si toutefois, comme dans certaines régions, en fait, il y avait d'autres organismes relais, type une fédération professionnelle, l'entreprise pourrait s'adresser aussi je sais qu'il y a des régions où ça existe, l'entreprise peut s'adresser, en fait, à cette entrée qui a été prévue par la DREETS locale.
D'accord.
Mais chez nous, ce ne sont que les
Chez
OPCO.
vous.
C'est plus clair pour tout le monde.
Voilà, c'est les OPCO, on le verra un petit peu plus tard, mais il y a aussi, par exemple, à La Réunion, la capacité pour les entreprises de s'adresser au MEDEF Réunion, justement pour mobiliser la PCRH. Elle la contacte, ses seules obligations, on les a vues tout à l'heure, c'est surtout des critères de taille. Et donc, il y a cet accompagnement individualisé qui est assez rapide. Peut-être juste un mot sur la prise en charge et le conventionnement. Et là, Juliette, j'en reviens peut-être rapidement à vous. Ce conventionnement, cette PCRH, on l'a dit, hein, elle est conventionnée entre DREETS, entreprise, via un organisme relais. En termes juste de taux de prise en charge, en termes de coût pour l'entreprise, qu'est-ce que ça représente en fonction de sa taille aussi?
Alors, comme ça a pu être dit, il y a donc soit le conventionnement direct donc entre la DREETS et l'entreprise, ce qu'on peut retrouver par exemple en Hauts-de-France, soit effectivement via un organisme relais. Le taux de financement État, il est à 50% du coût total hors taxe, avec un plafond de 15 000 euros par accompagnement, que ce soit un accompagnement individuel ou collectif. Comme vous avez pu le voir, ensuite, on est sur une logique de cofinancement. Donc la plupart des DREETS ayant conventionné, pardon, avec les OPCO, ça permet un cofinancement et donc un reste à charge amoindri. Voire, comme vous avez pu le voir, en Pays de la Loire, il y a également le conseil régional, autant de possibilités qui font que chaque région a aussi sa spécificité de financement. La logique, c'est de pouvoir avoir un reste à charge amoindrie pour les plus petites entreprises. Et souvent, on a une logique, voilà, de plus l'entreprise est petite, moins elle va avoir de reste à charge. Mais il reste à la main de l'ADRETS, voilà, quel conventionnement avec qui et quel cofinancement. Donc ça, c'est un peu, voilà, c'est régionalisé comme logique.
On a juste eu une question et ensuite peut-être quelques témoignages ou retours d'expérience sur des entreprises qui l'ont mobilisé. La question, elle concerne le critère de 2 ans du cabinet extérieur. Est-ce que ça repose sur 2 ans d'existence ou sur le nombre d'années d'expérience du consultant?
On parle bien de l'expérience de l'intervenant, pour reprendre les termes exacts de l'instruction, donc de l'expérience du consultant.
En ce qui concerne la région, pour l'expérience de consultant, on va considérer qu'une personne qui a déployé en fait des outils RH en tant que DRH dans une entreprise ne peut pas se prévaloir d'une expérience de consultant. C'est vrai que ça surprend toujours un petit peu voilà, certains consultants qui viennent de créer leur activité. On attend quand même qu'ils répondent aux critères de l'instruction, à savoir une expérience en consulting de 2 ans.
Et puis voilà, après il y a ces 2 ans hein, qui sont inscrits, et il y a aussi quand même à la main de l'ADRETS toujours la vérification de la qualité de ces prestations. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important, c'est que on est moins dans une logique de masse, j'allais dire, que dans une logique vraiment qualitative. On est là pour faire des accompagnements qui permettent à l'entreprise de devenir autonome sur ces sujets-là. Et donc chaque DRETS a son mode de fonctionnement. On l'a dit, on le rappelle, mais chaque DRET a voilà, ses modalités de vérification pour que ces entreprises soient le mieux accompagnées possible.
Effectivement, et je me souviens quand on préparait aussi ces échanges, Christine, vous m'expliquiez que de toute façon, il y a aussi une sélection qui est faite au fil de l'eau en fonction des prestataires, en fonction du taux de satisfaction des entreprises qui ont recours aux accompagnements. Globalement, les cabinets, les rares cabinets qui ne donneraient pas une réponse satisfaisante au fur et à mesure ne sont plus sélectionnés. Donc vous avez réellement cet inventaire de cabinets, a priori, sur des cabinets que vous connaissez et pour lesquels vous avez déjà eu la preuve de la qualité de leur travail. Juste une autre question concernant le cofinancement. Le Conseil régional est-il partie prenante du cofinancement? Je crois que c'est réellement pour le coup une exception en Pays de la Loire, si je ne me
Oui,
trompe pas.
c'est bien une exception Pays de la Loire. Ça n'empêche pas qu'un cofinancement public est autorisé hein, et qui peut aller jusqu'à 100% du coût de l'accompagnement. Il se trouve qu'en Pays de la Loire, donc ça se fait, comme on l'a dit, via les OPCO et le Conseil régional. Mais effectivement, le Conseil régional est une exception ligérienne.
Peut-être juste vous proposer quelques retours d'expérience. On a une vidéo. Après, on laissera la parole à Christine.
Ma problématique, c'est que je suis jeune, j'ai que 21 ans, j'ai monté ma boîte à 17 ans, et donc j'ai pas pu avoir de formation ou d'apprentissage sur bah, comment gérer un recrutement. La prestation de conseil en ressources humaines s'est passée extrêmement rapidement. En fait, ma conseillère OPCO s'est rendue compte de ma problématique de recrutement. Et en même pas une semaine, j'ai démarré l'accompagnement. Et puis les démarches se sont passées très facilement. J'ai été accompagné par Stéphane, qui est ancien cadre et ancien RH dans une très grosse boîte et dans différents très grands groupes. J'ai pu bénéficier de tout son professionnalisme et ça s'est extrêmement bien passé et j'en suis ravi. L'entreprise n'a rien eu à payer. L'accompagnement a été financé à 100% par l'OPCO et par le ministère du Travail. La prestation conseil en ressources humaines m'a apporté beaucoup. Elle a pu me permettre d'apprendre des méthodes, d'apprendre des outils, de mettre en place des choses en concret dans mon entreprise. Et puis à la rentrée, on se développe puisque Côte-Côte House déménage, on passe de 50 mètres carrés à 300 et on emploie 3 nouvelles personnes à partir de septembre.
Voilà, donc on voit comme Côte-Côte House, vous pouvez effectivement, c'est toujours dans cette logique, encore une fois, de ne pas faire à la place d'eux, mais d'accompagner. Et c'est ce qui, dans ce témoignage, montre bien que derrière, il peut développer son activité, c'est qu'il sera en mesure de le faire lui-même dans les mois et les années à venir. Christine, quand on a préparé aussi ces échanges, vous évoquiez un ou deux cas. Que vous avez pu voir, vous, dans ces précédentes années, d'entreprises qui ont mobilisé de la PCRH et ça aboutit aussi sur des changements au niveau. Alors, c'est vrai que nous, on a plus une entrée formation, développement des compétences, hein, même au-delà des problématiques RH en général. Et donc, vous témoignez d'une ou deux entreprises qui avaient mobilisé la PCRH et pour qui il y avait eu vraiment un vrai plus par la suite.
Oui, alors en Pays de la Loire, on a lancé il y a quelques mois déjà ce qu'on a appelé une enquête qualité. Alors ce n'est pas du tout un contrôle de service fait par rapport à le respect en fait des textes dans le déploiement de la prestation dans le cadre des conventions qu'on a passées avec les OPCO. C'est vraiment aller à la rencontre des bénéficiaires en fait de prestations conseil en ressources humaines hein, et on a essayé de cibler, de faire un le tour de la région, le tour des départements, essayer de matcher secteurs d'activité différents et tailles d'entreprises différentes, mais aussi différents cabinets de consultants, bien évidemment, parmi ceux qui ont été le plus mobilisés, qui sont le plus intervenus sur la prestation. Donc, on allait visiter des entreprises qui ont bénéficié il y a entre 12 et 18 mois d'une prestation, pour voir, bah, suite à cette presta, comment ils s'en étaient emparés. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis? Qu'est-ce que ça a pu leur apporter à l'instant T et dans les mois qui ont suivi? On a retenu avec les organisateurs de la réunion deux exemples. Le premier, dans une entreprise en fait, qui travaille sur le secteur de la chaussure orthopédique hein, et qui, en même temps, du fait de la niche que représente ce secteur, avait commencé à travailler toute seule sur la création de produits dérivés, des objets du quotidien en cuir, etc. Donc c'est une entreprise en fait qui a deux entités. Une entité négoce de matériaux hein, pour la chaussure et la maroquinerie. Et deux ateliers de production, un sur vraiment la chaussure orthopédique avec des compétences en fait très, très particulières. Une problématique de transmission de savoir, une problématique d'organisation de la production au sein de cet atelier, et un deuxième atelier donc qui est en cours de prise d'ampleur, on va dire, sur tout ce qui est produits dérivés maroquinerie. Donc la question de, en fait, le chef d'entreprise est arrivé à solliciter, à se rapprocher de son OPCO et à solliciter une prestation pour ses ressources humaines, tout simplement parce que c'est un chef d'entreprise, un jeune chef d'entreprise qui est très impliqué sur son territoire et au niveau départemental. Il fait partie de fédérations professionnelles, il est administrateur d'un groupement d'employeurs, il fait partie du club des jeunes dirigeants. Je me demande s'il n'est pas aussi adhérent au MEDEF, je ne suis pas sûre, mais il me semble. Et donc, il était extrêmement occupé, son entreprise en fait tournait bien, mais il n'était plus suffisamment disponible pour ses salariés qui lui l'ont dit. Un jour, ils ont posé le constat en disant, bon, écoute, ça va plus. On est certes une petite entreprise, on est moins d'une vingtaine de salariés, ça fait des années qu'on travaille ensemble, on n'a pas de soucis. Les équipes sont plutôt soudées, sont plutôt solidaires, il n'y a pas de turnover. Néanmoins, on a des difficultés de recrutement, on n'arrive pas à en parler avec toi, on a des difficultés organisationnelles, on ne te voit jamais, si ce n'est entre deux portes. Donc, il faut faire quelque chose, ça ne va plus. Partant de ce constat, il s'est dit, bah oui, effectivement, tout ce qui est ressources humaines, je le gère bah, comme je peux, entre deux, etc. Il n'y a pas de gros soucis, mais ça sera peut-être bien d'essayer d'aller un peu vers un perfectionnement de ces méthodes de gestion. Et donc, du coup, il a fait appel à une prestation conseil RH. Et in fine, le travail a été mené sur 6 mois. Et un an après, il a créé des postes de manager pour chaque atelier. Donc, en fait, ce sont des personnes qui se sont portées volontaires au sein de ces salariés pour devenir manager, encadrer l'activité, planifier l'activité, travailler à des nouveaux débouchés, travailler en même temps avec la personne qui travaille, qui est sur la recherche et développement de produits, avec les commerciaux. Donc, en fait, ce travail d'organisation de la fonction RH qui a été mise à plat, qui a été posée et qui est en train de se construire petit à petit. Et puis, en même temps, ils ont travaillé aussi toute la réimplantation de leur atelier. Tout simplement, ils ont travaillé sur les approvisionnements les plus optimums, les déplacements dans les ateliers entre les lieux de stockage, les lieux de production et les lieux de départ des produits. En fait, c'est un travail complètement global qui est en train d'être mené et qui poursuit suite à cette prestation conseil en ressources humaines.
On voit que d'une problématique très concrète émanant de salariés par rapport à leur responsable, on a découlé pas mal de solutions via cette CRH, à la fois sur de la montée en compétences, du suivi de formation et donc des salariés qui ont des nouvelles fonctions ou en tout cas qui les développent au sein même de l'entreprise et derrière des process aussi qui sont optimisées au sein même de l'entreprise. Donc on
Tout à
voit que
fait.
ça peut toucher à différents pans de la vie d'une entreprise.
Sans parler des réunions hebdomadaires institutionnalisées, sanctuarisées, qui ne bougent plus, qui ne sont plus reportées parce qu'une obligation extérieure, etc. Il y a vraiment des temps dédiés qui sont pris pour mettre sur la table tous les sujets que les salariés et les chefs d'équipe souhaitent, les managers souhaitent aborder. Et le tout, bien évidemment, en lien avec R&D et services commerciaux.
Peut-être juste quelques questions. Est-ce que la prestation d'accompagnement peut concerner le dirigeant d'entreprise? Alors, on a un exemple, hein, accompagnement à l'évolution de ses pratiques managériales, accompagnement à la réalisation de sa mission de dirigeant, à la mise en place d'un management intermédiaire. Là, on voit que oui, a priori, sur l'exemple que vous venez de citer, ça correspond bien à ça, via notamment les salariés d'entreprise.
Avec une petite précision quand même, c'est que l'accompagnement PCRH, il peut pas servir à financer on va dire, du coaching ou des actions de formation au bénéfice du chef d'entreprise. Donc là, c'était dans une logique plus globale, mais voilà, la PCRH, c'est pas du coaching de dirigeant.
Oui, ça, il y a d'autres effectivement fonds, dispositifs comme la GFIS notamment, qui permettent de venir financer la formation des dirigeants d'entreprise. Là, on est sur autre chose, c'est aussi enfin, voilà, l'organisation de l'entreprise d'abord. Est-ce que le dispositif est valable pour les accompagnements de qualité de vie au travail? Je crois que particulièrement dans le territoire ligérien, c'est particulièrement vrai.
On a souhaité mettre effectivement en exergue cette thématique parce qu'on s'est aperçu au bout de quelques mois de fonctionnement que c'était quelque chose qui ressortait systématiquement, que les opcos nous remontaient. Alors ça rentrait un peu dans l'accompagnement global GPEC ou GEPP hein, pour les entreprises un peu plus importantes, hein, de taille plus importante. Mais effectivement, tout ce qui est QVCT, c'était vraiment mis en exergue par un certain nombre d'entreprises ligériennes. Donc, du coup, ça fait partie d'un item d'accompagnement clairement identifié sur notre répertoire. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain nombre de cabinets de consultants qui sont experts en la matière et qui sont à même de proposer des accompagnements extrêmement construits avec des méthodes innovantes par rapport à la mise en place de cette QVCT. Alors évidemment, ça va souvent de pair avec la marque employeur, la RSE, etc. Mais on est sur des items un peu phares en matière d'accompagnement sur la région.
Sur le coût total, pour être bien sûr, le coût pris en charge, alors on nous demande si c'est coût pédagogique plus coût salarial plus frais annexes. Non, non, on est bien sur la prise en charge de la prestation par le cabinet extérieur d'accompagnement, charge à l'entreprise derrière de financer le plan d'action qui sera mis en place. S'il y a de la FEST ou de la formation derrière, c'est bien à elle derrière de le prendre en charge. Alors éventuellement avec des dispositifs d'aide ou de prise en charge comme le PDC et autres, mais là, on parle via la PCRH uniquement de la prise en charge de l'accompagnement par le cabinet externe.
Voilà. La prestation, en fait, c'est un accompagnement dédié qui est mis à disposition de l'entreprise. Après, évidemment, l'entreprise va être enfin, dans l'obligation de consacrer du temps à cet accompagnement et du temps encadrement et du temps salarié, puisqu'on est quand même autant que faire se peut sur des démarches participatives. Et comme vous le disiez très justement, après, il y a d'autres dispositifs qui peuvent intervenir en relais sur des poursuites éventuelles, type formation. Vous parliez du PDC, mais on peut aussi mobiliser du FNE formation, qui est aussi à la main des OPCO, qui est abondé aussi par les financements publics de l'État. Voilà, après, il y a différentes solutions qui peuvent être apportées, mais qui seront de toute façon travaillées avec l'OPCO.
Juliette, je me retourne vers vous. Est-ce que vous avez des éléments un peu de voilà, stade, de bilan au national et aussi dans les territoires sur le déploiement depuis sa création de la PCRH?
Eh bien oui, ça c'est. Alors, ce que vous voyez apparaître là, c'est des éléments d'évaluation qui ont été réalisés par l'ANACT, auprès voilà, d'un échantillon d'entreprises, entre juin 2020 et août 2023. Les statistiques qu'on va vous présenter, alors peut-être pas en Pays de la Loire, parce que Christine doit avoir des chiffres plus à jour, mais voilà, au niveau national, je préfère avoir les statistiques jusqu'à septembre 2023 qui sont bien consolidées. Donc les chiffres que vous verrez apparaître côté national s'en arrêtent là. Comme vous pouvez le voir sur cette étude ANACT, on a un fort taux de satisfaction des entreprises. C'est bien pour ça qu'on le met en gros sur la slide, hein. Ça, sinon on le mettrait peut-être en plus petit sur une case un peu à part. Mais blague à part, voilà, on a quand même 97% des entreprises interrogées qui estiment que la PCRH a été utile ou très utile à leur structure. Et 86% des entreprises qui ont un effectif inférieur à 50 salariés. Donc ça rejoint un peu ce qu'on vous disait en préambule, hein, c'est vraiment la cible prioritaire, on va dire, de ce dispositif. À 86%, on peut se dire qu'on a quand même bien rempli cette idée. Les secteurs les plus représentés, eh bien, ce sont le commerce, l'industrie manufacturière et puis les activités scientifiques, techniques, la construction. Globalement, c'est vraiment une tendance, hein, le commerce en tête de file qu'on retrouve. Voilà, ça bouge pas trop, même sur les derniers chiffres qu'on est en train de formuler, c'est souvent c'est le secteur qui est le plus représenté. Sur les trois thèmes que vous voyez aussi apparaître, hein, donc la GPEC, l'organisation du travail et l'appui au recrutement, là aussi, c'est une tendance qui bouge parfois un petit peu, mais qui globalement reste dans ces cordes-là. Jusqu'à août 2023, donc de juin 2020 à août 2023, c'est plus de 15 000 prestations qui ont été réalisées. Rien que pour l'année 2023, on était à plus de 4 000 en septembre, et donc 88 millions d'euros dans le cadre de ces accompagnements. Après, pour ce qui est des statistiques, voilà, un petit peu nationales, la répartition territoriale, alors qu'il faut remettre aussi au regard du fait que les enveloppes ne sont pas nécessairement les mêmes, comme on a pu un petit peu l'évoquer. Globalement, Île-de-France reste là aussi tête de pont, suivie la plupart du temps par Auvergne-Rhône-Alpes. Mais on a un bon équilibre entre les régions métropolitaines et aussi une force de proposition de la part des territoires ultramarins qui sont loin d'être en reste et qui proposent pas mal d'accompagnement dans le cadre de leurs besoins. Et sans surprise, hein, puisque c'est le secteur le plus représenté et le commerce, très logiquement, l'organisme relais qui est en tête est l'Aube Commerce. Jusque-là, on n'a pas de grandes surprises suivies d'Acto et Atlas. On a quelques conventions directes, comme vous pouvez l'observer, c'est la première ligne de l'histogramme, et quelques autres organismes relais que les OPCO, notamment ça a été le cas en Hauts-de-France, donc avec le MEDEF et à La Réunion. Pour les thématiques d'intervention, particulièrement 2023, ce que je vous montrais tout à l'heure, là, les trois grandes thématiques, c'était de juin 2020 à août 2023. Là, si on se concentre sur 2023 jusqu'à septembre, donc, on a des thèmes qui ressortent, hein, qui sont globalement les mêmes, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, l'organisation du travail, la professionnalisation de la fonction RH, et puis ensuite, ça s'équilibre à peu près sur les autres thématiques qu'on a pu vous présenter.
Est-ce que... il y a des questions sur ces éléments plus statistiques ou de bilan?
Alors, il me semble, oui, que le Pays de la Loire avait... Christine avait proposé aussi quelques statistiques propres à sa région.
Voilà, alors toujours depuis le début du dispositif, donc on est sur une période de référence juin 2020, décembre 2023. Donc en Pays de la Loire, pratiquement 1340 prestations mises en œuvre. Sur un budget global de pratiquement 8 millions d'euros, hein, puisqu'on est 4,7 millions des poussières État et puis même plus de 8 millions, et 3,5 millions les autres cofinanceurs, alors majoritairement le conseil régional, hein, puisque en Pays de la Loire, en fait, jusqu'à 50 salariés, on a des taux de prise en charge qui peuvent aller jusqu'à 100% si le pot met 10%. De financement, sinon 90%, donc ça contribue, quoi qu'on dise, à la dynamique, le cofinancement en fait, du conseil régional et des OPCO contribue à la dynamique de la Presta en Pays de la Loire. Après, au niveau de la taille des entreprises, eh bien, comme on le répète depuis le début de cette rencontre, on est prioritairement sur des moins de 11, hein, comme le montre le graphique de droite, hein, puisqu'on est principalement sur des moins de 11 et des entreprises de moins de 50 salariés qui restent le cœur de cible en fait, de l'accompagnement aussi des OPCO. Les thèmes abordés, alors c'est en fait, on n'est pas tout à fait dans le même quartier gagnant que le national, tout simplement parce que, comme on le disait tout à l'heure, on a mis en exergue un certain nombre de choses, notamment l'organisation du travail et la qualité de vie au travail qui apparaît en deuxième position derrière le recrutement et l'intégration des salariés. Bon, il faut dire qu'en Pays de la Loire, on est dans une situation de plein emploi. Hein. On est vraiment sur le tension de recrutement sur tous les secteurs d'activité, ce qui explique en fait que ce soit un accompagnement qui soit extrêmement sollicité par les entreprises algériennes. On est bien évidemment sur la professionnalisation de la fonction RH et sur l'aspect GEPP, GPEC. Les transitions numériques et écologiques, alors je ne vous les ai pardon, pas fait apparaître, commencent à monter fortement. Par rapport aux mobilisations, c'est vrai que autant on a démarré tranquillement avec ce type d'accompagnement à la transition écologique et numérique, autant depuis quelques mois, on s'aperçoit que les entreprises sont très en demande par rapport à ce type d'accompagnement. Voilà, et puis très rapidement, mais sans que ça appelle quelques commentaires de ma part, puisque on est à peu près sur la même chose qu'au niveau national, avec une forte prépondérance du commerce. C'est vrai que par OPCO, on est sur commerce-construction prioritairement, et on s'aperçoit qu'après, on va avoir des différences en fonction des types de commerce.
Mais ça montre bien, alors effectivement, les secteurs d'activité dans lesquels c'est le plus mobilisé, mais surtout que ça touche, et c'était l'objectif, mais c'est aussi un résultat, les plus petites entreprises, avec un taux de satisfaction qui est quand même extrêmement élevé, 97%, c'est quand même énorme, et c'est aussi tout l'intérêt de pouvoir vous le présenter un peu plus précisément.
Votre demande en tant que chef d'entreprise peut partir d'un point très précis et finalement déborder sur un accompagnement beaucoup plus concret. Un centre de loisirs en fait qui a été amené à accueillir un jeune avec un très lourd handicap hein, et un jeune qui voulait absolument travailler dans une profession en contact avec les enfants. Donc l'idée du centre de loisirs c'était qu'effectivement ce jeune il y avait un besoin de qualification de montant en compétences hein, mais qu'il n'était pas en capacité de lui faire passer compte tenu de son handicap quelques qualifications que ce soit. Donc ils étaient plutôt sur qu'est-ce qu'on va mettre en place en matière d'accompagnement pour intégrer ce jeune et puis voir comment on va pouvoir l'amener à progresser. Et in fine, en fait, le consultant, quand il est arrivé au sein de ce centre de loisirs, il a permis à l'équipe dirigeante de se poser les bonnes questions. À savoir, ça fait 30 ans que le centre de loisirs existe, on n'a jamais créé une fiche de poste. On n'a jamais fait un entretien de recrutement. On s'est jamais posé la question du livret d'accueil. On s'est jamais posé la question de comment fidéliser des compétences sur un secteur d'activité où on est sur du temps très partiel, hein, etc., etc. En fait, ils ont tout remis à plat au niveau de l'RH et ils sont vraiment partis d'une problématique de montée en compétences. In fine, ils ont remis à plat toute leur politique RH, hein, y compris comment interpeller la gouvernance, parce qu'on était sur un centre de loisirs associatif avec voilà, des bénévoles très, très peu présents, y compris comment les mobiliser par rapport à la gestion de ce centre. Et in fine, ce centre de loisirs donc, a 4 salariés à temps plein en CDI et les 4 ont été formés à la FEST.
À amorcer cette professionnalisation aussi des pratiques RH dans l'entreprise, ça va en entraîner d'autres derrière et c'est aussi très intéressant de voir que ça peut le faire voilà, sur l'insertion d'un jeune demandeur d'emploi et derrière la formation de 4 personnes en situation de travail. Donc en plus, il y a des modalités pédagogiques qui sont pas forcément évidentes à mettre en œuvre. Effectivement, c'est très intéressant d'avoir aussi ce genre de témoignage. Je vous propose juste de passer au troisième intervention avec Anaëlle Casimir, qui est responsable emploi formation au MEDEF Réunion. Le MEDEF Réunion est organisme relais. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots en quoi consiste justement ce partenariat avec l'ADEDS et qu'est-ce que vous, en tant qu'organisme relais, parce qu'on a le témoignage au niveau national, on a le témoignage de l'ADRES Pays de la Loire qui le porte au niveau régional. Là, le témoignage peut-être d'un organisme relais, comment vous faites, comment ça s'est structuré?
Pour comprendre, en fait, partir un petit peu du contexte de l'île de la Réunion, il faut savoir que, notamment en 2020, il y a eu la crise sanitaire et ça a créé finalement une crise économique sur l'île, une crise sociale qui a beaucoup impacté les différentes entreprises. Dans ce cadre-là, et face à ce constat, le MEDEF s'est intégré en qualité d'organisme relais sur la prestation d'appui conseil en ressources humaines, de concert donc avec l'ADEDS de La Réunion, sur trois grands points. Donc, contribuer au maintien et au développement de l'emploi et des compétences dans la période de crise et de reprise économique. Numéro 2, c'était les entreprises à adapter leur organisation de travail et la gestion des ressources humaines dans ce contexte aussi de crise. Et enfin, de leur permettre aussi de construire des outils, des plans d'action. Parce que si on regarde finalement les typologies en fait, d'entreprises sur l'île de la Réunion, on est en grande majorité sur des entreprises de moins de 50 salariés qui n'ont pas forcément de structuration RH intégrée et notamment en lien avec cette crise, elles avaient besoin d'aide et ça a été l'objet de l'action commune MEDEF Réunion et DETS Réunion.
D'accord, donc d'abord un dispositif de réponse à une crise, donc c'est une réponse conjoncturelle, mais qui du coup s'est un peu inscrite dans le temps. Aujourd'hui, il y a une entreprise adhérente vient vous voir pour être accompagnée via la PCRH. Comment ça se passe concrètement?
Alors, pour une entreprise, et donc je rebondis sur ce que tu disais, on est bien sur donc un dispositif issu d'une crise, mais qui s'est pérennisé dans le temps au regard en fait des retours d'expérience qu'il y a eu et des retours plus positifs hein, des entreprises bénéficiaires. Aujourd'hui, si une entreprise donc vient vers le MEDEF de la Réunion, on va suivre ce qui était mis en avant, hein, les grandes normes qui sont associées à la circulaire. D'abord, on est déjà sur une réponse à appel à proposition donc au niveau de la dette. La dette va formaliser donc ce qu'on appelle une subvention qui va être soumise donc aux obligations de la circulaire. Il peut y avoir deux méthodes d'approche en fait du MEDEF des entreprises auprès du MEDEF. Donc, soit les entreprises se rapprochent directement de nous avec une problématique RH, et là, ben, comme l'indique la circulaire, il va y avoir présentation d'un catalogue de consultants dits éligibles, donc qui répondent aux critères d'éligibilité indiqués par la circulaire, et un choix volontaire de l'entreprise. Deuxième modèle, il peut y avoir aussi un consultant porteur, un consultant éligible porteur qui arrive avec un projet. Mais dans ces deux cas-là, il va y avoir donc un entretien préliminaire de notre côté. Ça peut être une entreprise qui est adhérente ou encore non adhérente. Une fois, entre guillemets, cet entretien préliminaire réalisé, donc on va s'assurer que ça rentre bien dans les différentes thématiques hein, associées à la PCRH, il va y avoir un point quand même de contrôle qui va s'effectuer à ce moment-là. Le MEDEF Réunion va prendre ancrage avec la dette et finalement, il va y avoir une contre-vérification tout de suite pour être sûr qu'il n'y ait pas de débordement, qu'on soit bien en fait dans les orientations donc des grandes thématiques de la circulaire qui dispose aussi de sous-thématiques d'entrée. De là, la DETS va confirmer ou infirmer cette éligibilité que nous, on avait repérée en entretien préliminaire. Et si l'entreprise est éligible, eh bien, on va l'informer de sa possibilité donc de bénéficier de la prestation d'appui conseil en ressources humaines. Avoir une signature de convention pour formaliser ce partenariat et la qualité aussi des prestations qui vont avoir lieu, consultant et entreprise. Et enfin, nous, ce qu'on a mis en place du côté du MEDEF de la Réunion, c'est qu'on va mettre trois formulaires de parcours pour s'assurer aussi de la qualité. Il va y avoir un formulaire au début de parcours pour voir un petit peu qu'est-ce qui va être organisé. On va avoir un formulaire de mi-parcours qui va permettre de capter en fait la progression de l'accompagnement qui a lieu et un formulaire de fin de parcours qui va en fait acter de la fin de cette prestation. Comme l'ensemble des organismes relais, qu'ils soient OPCO ou encore MEDEF, il va y avoir donc à la fin de la consommation totale de la subvention, un bilan qui sera réalisé à la DETS et différents points en fait qui vont être positionnés tout au long de la durée de la convention pour bah, s'assurer à la fois de la consommation mais de la qualité.
On voit qu'il y a quand même une grosse focale qui est mise sur la qualité, à la fois sur le contrôle préliminaire que tu évoques, mais aussi sur les trois formulaires à renseigner tout au long de cet accompagnement. Une dernière question, Anaëlle. Quel regard tu portes, enfin, vous, le MEDEF Réunion en général, vous portez sur ce dispositif RH? Quelle plus-value aussi auprès de vos entreprises?
Ah, je vais m'appuyer déjà sur quelques chiffres et une interprétation aussi, bah, d'ailleurs des différents bilans qui ont été réalisés. Et ben, quand on regarde en fait la PCRH, on va voir que, à l'instar hein, de ce qui a été dit précédemment, on va toucher des entreprises de moins de 50 salariés, de 0, du moins de moins de 11 à 24 % et 60 % par exemple de 11 à 49. Par contre, la thématique qui est un peu plus travaillée, nous, sur notre île, hein, au-delà de la gestion prévisionnelle, des emplois et des compétences, de la professionnalisation de la fonction RH et de l'organisation du travail, on va retrouver aussi cette petite thématique de l'amélioration du dialogue social qui va être prégnant, notamment sur les 60% de 11-49. Ça aide vraiment les entreprises à progresser, à passer d'un niveau de maturité 1, comme je vous le disais, manque de structuration RH intégrée, pas forcément, on va dire, de connaissance des processus et de capacité de mise en œuvre. Souvent, des services se chargent à la fois de la comptabilité et des ressources humaines, ce qui est difficile à la gérer. Et ben, on va les aider à monter en compétences et se poser la question à comment pérenniser, s'ancrer dans le temps sur ce sujet. La valeur ajoutée, on va dire, de cette prestation, et notamment pour le MEDEF de La Réunion, c'est qu'on va avoir, à défaut par exemple d'un OCO qui va être très sectoriel, une vision aussi un petit peu plus panoramique. Par exemple, on va pouvoir intercomparer les besoins par secteur, BTP, services, commerce, transport ou encore industrie, ce qui va nous permettre aussi de voir les besoins sur mesure de ces secteurs-là et leur degré de maturité et d'évolution, hein, ce qui induit, on ne l'a pas fait sur 2022-2023, mais en 2024 peut-être, d'orienter, comme il était évoqué tout à l'heure, des accompagnements un peu plus collectifs et peut-être des questions à se poser sur des accompagnements associés aux fédérations. Donc, fédération, on n'est pas au niveau de la branche, nous, de notre côté, on laisse vraiment ce champ-là aux OPCO. Donc finalement, en quelques mots, on va maintenir en 2024 ce dispositif. Il a permis aussi de faire connaître aux entreprises, notamment sur l'île de La Réunion, qu'il existe des possibilités en fait, d'accompagnement conseil, parce que je rebondis, on est bien sur le champ du conseil, mais surtout leur ouvrir les chakras et se dire, au-delà d'une stratégie RH, au-delà de conseil, comment après moi je vais faire pour me professionnaliser. Et on a pu observer, parce que là on ne se substitue pas aux OPCO, des continuités de parcours par exemple, et on le sent aussi en ce moment, des ponts vers par exemple du FNE formation ou d'autres dispositifs qui seraient ouvert. Et là, c'est tout le rôle du DARP ou encore des OCO qui prennent le relais en continuité.
Merci beaucoup à nos trois intervenantes à distance, parfois assez loin. Merci également à l'Académie, à Céline et Gauthier pour l'organisation de ce webinaire.
C'était un podcast de l'Académie saison 5. Nous tenons à remercier l'ensemble des intervenants et collaborateurs qui ont contribué à sa réalisation. Merci de votre fidélité et à bientôt.